Radio Okapi.
Le journal, c'est tout de suite avec Grace Hamzati.
Au sommaire de ce journal, un retour massif des déplacés sur l'axe Komanda-Luna à Ituri est signalé. Près de 70% des habitants ayant fui les attaques des ADF regagnent leur village, favorisé par la calme sécuritaire issue des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises. La ville de Mweneditu, dans la province de Lomami, confrontée à un problème d'eau potable. Les robinets de la régie des eaux restent à sec, exposant la population à des risques sanitaires, tandis qu'un rétablissement progressif est annoncé. Halt au vandalisme des installations électriques. Appel lancé à la population de Kisangani dans la Tchopo par les députés nationaux Théovel Lotika, qui est d'ailleurs notre invité. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, cette information sportive qui reste d'actualité. La République démocratique du Congo n'ira plus chercher le trophée de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Congolais ont été freinés hier dans leur élan par les Algériens au bout d'un match qui s'est joué sur des petits détails. Les Léopards quittent la compétition arme à la main avec un goût d'inachevé. Jean Gando.
C'est dans les ultimes minutes de la prolongation que les Congolais ont baissé les bras en se faisant surprendre par les Algériens qui sont allés chercher la victoire au bout du bout sur un travail du joueur Aldi Boulbina. D'un tir tendu et imparable, il a battu le portier congolais Lionel Mpassi à une minute de la fin de la prolongation, soit à la 119e minute. Les Léopards qui se voyaient déjà à la séance de tir au but quittent donc la compétition plutôt que prévu. Une défaite qui vient porter un coup de massue à une équipe en pleine progression. Les Léopards se sont donc fait chicoter, brisant ainsi les espoirs de tout un peuple qui y croyait. Désormais, ils sont appelés à suivre la suite de la compétition à la maison, avec les regards rivés vers le match de barrage pour la Coupe du Monde qui aura lieu au mois de mars prochain. Pour plusieurs analystes, c'est avec honneur que les Léopards sont éliminés, mais au cours de ce match, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Le sélectionneur national doit donc préparer son équipe pour les prochaines joutes en tirant les leçons des erreurs constatées tout au long de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.
Nous le disions tantôt, à Ituri, environ 70% des habitants qui avaient fui les attaques des rebelles ADF il y a quelques mois sont déjà retournés dans leur village situé le long de la route nationale numéro 4 sur l'axe Komanda-Luna. Nous sommes dans les territoires d'Irumu. La dernière vague des retours en provenance du Nord Kivu est arrivée mardi à Ndalia et Otomaber. Selon des activistes locaux des droits humains, cette dynamique s'explique par la calmie observée dans la région consécutive aux opérations militaires conjointes menées par les forces armées de la RDC FARDC et l'armée ougandaise, l'UPDF. Martial Kizabiamungu nous appelle des Bounia.
Ces populations retournées proviennent en majorité des Ringeti, Oicha, Beni et Butembo dans la province voisine du Nord Kivu. Elles arrivent progressivement dans leurs villages de Ndalia, Idowu, Otumaber, Bwanasora, Mambelenga et Ndimo dans la chefferie de Walese Vokutu. Selon des activistes locaux des droits humains à mission de monitoring dans cette région, ce retour est motivé par la calmie observée le long de l'axe Komanda-Luna, mais également la réouverture de cette route nationale numéro 4 après sa réhabilitation. Il s'allie les dispositifs sécuritaires mis en place par le FARDC et le UPDF en opération conjointe dans cette zone pour sécuriser la population. Christophe Mouniadero, un d'eux.
La population est en train de venir les unes sur moto et d'autres même dans des voitures, avec aussi cette ouverture de la RN4 a facilité le retour progressif de la population ainsi que cette petite accalmie observée. Il y a des patrouilles, vraiment on a renforcé les dispositifs. Il y a au moins des avancées par rapport à la période passée.
Cette accalmie retrouvée permettra aux retournés d'accéder de nouveau dans leur champ, ce qui pourra contribuer à leur résilience. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au sud Kivu, dans les territoires des Fizi, des milliers de déplacés internes font face à une situation humanitaire particulièrement préoccupante. Leur nombre ne cesse d'augmenter en raison de la poursuite des affrontements dans les hauts plateaux et sur l'axe Makobola, le long de la route nationale numéro 5. Face à cette urgence, l'administrateur du territoire des Fizi appelle les autorités provinciales et nationales à apporter une assistance rapide à ces populations qui en expriment un besoin. Sami Kalonji Badibanga, au micro de Jean Kassami.
Les territoires de Fizi déplorent une situation humanitaire dramatique de tous ces déplacés qui sont venus de différents horizons, notamment ceux venus du territoire voisin d'Ouvira et ceux du territoire de Fizi, et qui se sont concentrés sur quatre axes. Nous avons l'axe littoral du lac Tanganyika, l'axe Makobola-Mboko, l'axe Fizi Centre 0, Kwamulima, et toutes ces personnes sont hébergés dans des écoles, dans des églises, perturbant ainsi les activités ecclésiastiques, celles scolaires. Et comme vous le savez, les littorales du lac Tanganyika constituent le foyer de maladies épidémiques de choléra et de la rougeole. Nous avons déjà des victimes, les enfants sont déjà affectés au gouvernement provincial, au gouvernement national, de pouvoir intervenir et d'apporter une assistance à ces déplacés internes. Et la communauté des humanitaires doit se mobiliser de son côté pour pouvoir apporter assistance en vivre et non vivre et les abris.
Et au Nord Kivu, le nombre d'enfants orphelins continue d'augmenter en raison de la persistance du conflit armé. Le constat est dressé par le directeur de l'orphelinat Lève-toi, situé à Turunga, dans le territoire de Nyiragongo, à l'occasion de la journée des enfants orphelins de guerre, commémorée ce mardi 6 janvier. Selon lui, cette situation exige une implication renforcée de l'État et de ses partenaires afin d'améliorer la prise en charge de ces enfants. En marge de cette journée, Eli Mukanda appelle également au rétablissement de la paix dans l'est du pays, estimant que seule la fin des hostilités permettra de réduire le nombre de ces victimes silencieuses, souvent marquées par des blessures physiques et émotionnelles. Suivons-le dans ses propos.
En tant que responsable d'une structure qui héberge en son sein certains enfants orphelins de guerre, nous adressons un appel à toute la communauté, aux organisations internationales, de pouvoir accompagner ces enfants qui se trouvent la plupart dans des structures, d'autres dans la rue, des enfants ayant perdu des parents à cause de la guerre. Ces enfants, s'ils ne sont pas accompagnés, ils seront demain ou après-demain de danger pour la communauté. Les enfants orphelins de guerre sont des enfants qui nécessitent un appui, un accompagnement permanent afin que demain ou après-demain, que les problèmes qu'ils ont commis, qu'ils puissent transformer ça en une force pour bâtir un pays solide, un pays où les gens peuvent marcher librement, vivre librement parce que la guerre leur a arraché leurs parents et les amis dans des conditions difficiles. Mais beaucoup plus, nous voulons que les armes se taisent, que nous puissions voir la paix retrouvée.
Instituée par l'ONU, la Journée mondiale des orphelins de guerre vise à rappeler les tragédies invisibles causées par les conflits armés. Cette journée est une occasion de sensibilisation et d'action pour garantir que les droits fondamentaux des enfants soient respectés. Restons au Nord Kivu, à Beni. Les fêtes de Nouvel An et de Noël se sont déroulées dans un climat globalement calme. Une accalmie saluée par la société civile et qui l'explique par les déploiements préventifs des forces de l'ordre dans les 30 quartiers de la ville. De son côté, la police nationale congolaise appelle la population à poursuivre cette dynamique de collaboration afin de renforcer durablement la sécurité. Marc Marofimbo.
Dans la commune de Bungulu, par exemple, où les cas de sécurité nocturne liés aux excursions dans les domiciles sont fréquents, la société civile salue le professionnalisme des forces de l'ordre durant cette période festive. Jires Mukongoli, président de la société civile de Bungulu.
En tout cas, elle a été très très professionnelle. Pourquoi? Parce que au moins elle nous a rassuré la sécurité. Cette période de festivité a été unique et aussi spéciale par rapport à d'autres qui sont déjà passées, même s'il y a toujours des dérapages, même si aussi la police n'est pas capable de garder la porte de toutes chacun, mais elle a été plus professionnelle. Donc, nous la félicitons.
La police nationale congolaise recommande à la population de poursuivre cette culture de collaboration. Nason Mourara, chargé de communication de la police en ville de Beni, insiste sur l'importance du partage des formations fiables.
Que cette population continue toujours à collaborer avec la police nationale congolaise. Je veux dire ici que sans la collaboration, il n'y aura pas une sécurité dans la ville. Donc si on a des informations, mais que ces informations soient fiables, que cette population donne ces informations auprès des agents de police qui sont affectés dans leur coin à terme d'une police de proximité.
Une semaine avant les fêtes, la police avait déployé ses éléments dans les 30 quartiers de la ville de Beni. Marc Marofimbo, Beni, Radio Okapi.
Dans la province de Lomami, la ville ferroviaire de Mweneditu, située à plus de 130 km de Mbujimayi, fait face à une pénurie d'eau potable. Les robinets de la régie des eaux sont à sec, poussant les habitants à s'approvisionner dans les ruisseaux et les sources non aménagées avec les risques de divers problèmes sanitaires. La régie des eaux annonce avoir achevé les travaux de réparation de la panne survenue sur la grande conduite d'eau, laissant espérer un rétablissement progressif de la distribution. Des explications avec Esther Nalafina.
L'eau potable est devenue une denrée rare dans la ville ferroviaire de Mweneditu. Durant 2 semaines, les robinets de la régie des eaux sont restés secs. Témoignage d'une femme ménagère.
On n'a pas de l'eau à boire et l'atmosphère qui est là ne permet pas de rester dans la maison sans de l'eau. Les autorités pensaient quand même à nous. La régie des eaux est en panne. On souffre.
Face à cette crise, la régie des eaux annonce la fin des travaux de réparation. Didier Mboudilelo, directeur régional, rassure.
Il y a une fuite là entre le captage et l'usine. Il y a une conduite là qui était presque dans les ravins et quand l'entreprise qui fait les travaux de la RN a embayé, elle qui est un peu trop appuyée sur l'état là, ça fait bouger un peu un emboîtement. C'est une conduite en PVC d'un 200. Avec cette fuite, on savait plus pomper. On a creusé, vous voyez, il y avait une grande couche de terre. Hier, on a pu voir la conduite et on a identifié l'endroit où il y a la fuite. Aujourd'hui, on est en train de réparer et donc d'ici la fin de la journée, on va reprendre les solutions là-bas.
Signalons que compte tenu de la démographie de la ville de Mweneditu, les sources non aménagées ne suffisent pas à couvrir les besoins des ménages. La population attend donc avec impatience le retour de l'eau potable au robinet. Esther Nalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Par ailleurs, au Kasaï central, les travaux d'asphaltage du tronçon aéroport entre Dukan sur la route nationale numéro 1 avancent à un rythme jugé satisfaisant par plusieurs habitants de la ville de Kananga. Lancés samedi dernier, ces travaux sont exécutés par l'entreprise Safrimex grâce au financement du gouvernement central. Un reportage signé André Katende Ngalamulome.
Les travaux de bitumage se poursuivent près de l'aéroport de Kananga. Sur les chantiers, plusieurs engins lourds, notamment finisseurs d'enrobés, répandeuses de bitume et rouleaux compresseurs, sont mobilisés pour l'asphaltage de cette partie de la ville. Kirieux et riverains se rassemblent pour suivre l'évolution des opérations menées par Safrimex.
Les travaux du côté de l'aéroport sont en train de marcher très bien là. Nous remercions notre président pour...
Nous sommes contents de la partie déjà asphaltée car nous marchons désormais sur la chaussée.
Si une partie de la population exprime sa satisfaction, d'autres habitants pointent du doigt la lenteur de l'exécution ainsi que la qualité de certains ouvrages.
Ce que moi je dois déplorer, c'est d'abord la lenteur. Autre chose, c'est que le travail qui a déjà été exécuté, nous voyons il y a déjà des fissures. Donc.
À ce stade, environ 900 mètres de route ont été asphaltés à partir de l'aéroport de Lungandu. Parallèlement aux travaux de bitumage, l'entreprise procède également à l'installation de lampadaires le long de la chaussée. Kananga, André Katinde Ngalamulume, Radio Kapi.
Merci à vous, André Katinde, pour ce reportage. Revenons un instant dans le territoire, dans la région de Beni au Nord Kivu, où la jeunesse de Kavinyonge dénonce l'insalubrité qui s'est installée sur la plage de cette localité située à plus de 100 km au sud-est de la ville de Beni. Des amas d'immondices et des déchets plastiques ont envahi ces sites, pourtant très fréquentés par la population. Une situation qui représente un risque non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la biodiversité halieutique du lac Édouard. Depuis un mois, le service local de l'environnement mène des actions de sensibilisation afin d'encourager un comportement plus responsable et un meilleur civisme environnemental au sein de la communauté. Une fois de plus, Marc Marofimbo.
Selon le président du comité local de la jeunesse de Kavinyonge, la présence des collines de poubelles remplies de bouteilles en plastique et de déchets domestiques est observée sur la plage, précisément du côté de Kainingi, sur le lac Édouard, ce qui nuit non seulement à l'hygiène communautaire, mais également à la biodiversité halieutique même du lac. Il fustige également la pratique de lavage des vêtements et des ustensiles par certaines femmes et jeunes directement dans les eaux du lac, une situation qu'il considère comme un danger public. Patrick Mouassa plaide pour la sensibilisation de la population, en particulier l'aide des jeunes filles et de mères contre ces pratiques qui nuisent à l'environnement. Contacté à ces sujets, le chef local du service de l'environnement et du développement durable indique que des séances de sensibilisation de la population ont débuté depuis décembre dernier et se poursuivent dans toute l'entité lacustre de Kainingi. Toutefois, Jérôme Malisawa plaide pour l'accompagnement des autorités pour la réussite de cette sensibilisation. Il dit compter sur les forces de l'ordre pour faire respecter les mesures prises pour l'assainissement de la plage de Kiavinyonge. Beni Marc Marufimbo, Radio Kapi.
Suite au communiqué officiel, vous le savez, de la Direction générale des impôts relatifs à l'imposition des nouvelles plaques d'immatriculation, l'Union pour la défense des droits des consommateurs du Congo, UDECOM, estime que la décision n'est pas mauvaise en soi. Toutefois, l'organisation juge nécessaire la tenue d'une concertation préalable afin d'assurer une mise en œuvre équilibrée. Chief Chipamba, coordonnateur national de l'UDECOM, formule plusieurs propositions à l'intention de la Direction générale des impôts, DGI. Il s'exprime ici au micro de Nancy Tambo.
Donc, nous estimons que procéder au changement de plaque entamerait l'article 59.2 et 6 du nouveau code de la route. Et s'il faille maintenir la réforme pour plus d'efficacité administrative, l'on devrait imposer des plaques pour de nouvelles acquisitions de véhicules, des véhicules non immatriculés, soit au cours des opérations de mutation. Quand le véhicule change de main, on va opérer la mutation, on vient chercher des plaques. Mais au nom du principe des droits acquis, ceux qui détiennent leurs plaques, ils les détiennent, ils peuvent pas acheter deux fois la même chose. Voilà quoi.
Dans l'actualité, sachez aussi que le ministre des Droits humains a lancé mardi un processus de médiation consacré au respect des droits fondamentaux des travailleurs. À cette occasion, Samuel Mbemba a reçu de nombreux ouvriers dans son cabinet à Kinshasa. Ces derniers ont mis à profit cette rencontre pour présenter au ministre les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités professionnelles. Des explications avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Le ministre des Droits humains explique que son action ne viole pas la loi et ne vient pas non plus empiéter sur les attributions des autres ministères et institutions du pays. Samuel Mbemba précise que ce travail de médiation ne se substitue ni aux cours des tribunaux, non plus aux procédures administratives prévues par la loi congolaise. De nombreux travailleurs ont ainsi exposé leur situation sollicitant l'apport du ministère des Droits humains pour une issue favorable, tout en remerciant le ministre Samuel Mbemba pour cette initiative qui sonne, selon eux, comme un véritable ouf de soulagement. Lors du lancement de cette séance, la Commission nationale des droits de l'homme était représenté par sa vice-présidente Joëlle Kona, preuve que cette démarche ministérielle tient la route. L'initiative de cette médiation tire son fondement de l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre fixant les attributions des ministères. À travers cette démarche, le ministre des Droits humains veut se faire l'avocat de toute la classe ouvrière du pays. En décembre dernier, Samuel Mbemba avait recommandé à tous les employeurs de payer à temps leurs travailleurs afin de leur permettre de bien passer les fêtes de fin d'année.
Merci à vous, Blaise Ndongala Mayanda. En Nord Kivu, 6 mois après le retour en forêt, 4 gorilles femelles montrent des signes encourageants d'adaptation. Leur réintroduction réussie sur le mont Tchaberimu au sein du parc national des Virunga constitue une véritable lueur d'espoir en ces débuts d'année 2026. Ces résultats interviennent après plusieurs années de soins prodigués au centre de réhabilitation des gorilles des Kasuo. Pour les acteurs de la biodiversité, cette réussite représente un signal fort en faveur de la protection des espèces menacées dans la province. Rosalie Zawadi.
Selon les responsables du centre de réhabilitation des gorilles de Kasuo, ces 4 femelles sont aujourd'hui en parfaite santé. Elles ont réussi l'étape la plus délicate, l'intégration sociale. Elles vivent désormais en pleine forêt, sous la protection du Mwasa, le mâle dominant sauvage de cette zone. Pour Jackson Mbeke, directeur du centre, cette réussite est historique. L'arrivée de ces femelles réduit considérablement les risques de consanguinité, un fléau qui menaçait jusqu'ici la survie à long terme des gorilles du mont Tchaberimu. Il explique que durant 2 mois, les communautés locales, les organisations de conservation et l'ICCN ont travaillé main dans la main pour arriver à ces résultats. Pour les acteurs engagés sur le terrain, ce succès est un message d'espoir envoyé au monde. Malgré les défis sécuritaires dans la région, la protection de la faune sauvage reste possible et porte ses fruits. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le gouvernement burkinabé s'est exprimé sur la dernière tentative de coup d'État déjouée samedi 3 janvier. Dans une interview diffusée sur la télévision publique, le ministre de la Sécurité a expliqué que les auteurs de cette tentative avaient prévu l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré et de plusieurs personnalités militaires et civiles. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour ces complots qui auraient été menés par l'ex-président de la transition, Paul-Henri Sandouago Damiba, avec des fonds provenant de la Côte d'Ivoire, rapporte le gouvernement burkinabé.
L'invité.
La population de Kisangani dans la Tchopo est appelée à protéger les installations électriques de la ville plutôt que de les vandaliser. Cet appel émane du député national Théovel Lotika, élu de Kisangani, qui les réitère lors de ses différentes rencontres avec sa base dans le cadre de ses vacances parlementaires. Lundi dernier, il a échangé à ce sujet avec les jeunes du quartier Plateau Boyoma. Il convient de rappeler que le caucus des députés nationaux de la Tchopo s'est impliqué dans la recherche des solutions à la crise d'électricité qui affectait la ville de Kisangani. Pour en parler, nous recevons le député national Théovel Lotika. Il s'entretient avec Jacques Mkonkole.
Théovel Lotika, bonjour.
Bonjour.
Vous avez plaidé pour que la centrale hydroélectrique d'Atchopo soit réhabilitée. C'est ce qui a été fait de 5 MW autrefois à 13 MW aujourd'hui. Le courant est devenu presque permanent dans une grande partie de la ville. C'est quand même une satisfaction pour vous.
À moitié, parce que le problème n'est pas complètement résolu. Selon les explications des agents de la SNEL ou de la direction de la SNEL, Kisangani a besoin de 45 MW. C'est selon les études de la SNEL. Alors que présentement là, selon aussi les explications du directeur provincial, la SNEL fournit aujourd'hui 13 MW. Donc vous comprendrez que le problème n'est pas totalement résolu, c'est à moitié. Mon plus grand souhait, c'est de voir réellement cette ville et toute la province, pourquoi pas, être servie.
Et si le courant n'arrive pas partout dans la ville, c'est parce que le réseau est vétuste, selon la SNEL, et parce que aussi il y a beaucoup de cabines qui ont été vandalisées par les jeunes. En tant que député élu de la ville de Kisangani, vous avez aussi un rôle à jouer auprès de votre base.
Justement, me trouvant ici en vacances parlementaires, je suis allé échanger avec le directeur de la SNEL, et il m'a expliqué réellement ce que vous venez de dire, que les 13 MW n'arrivent pas à être distribués correctement faute des réseaux, c'est-à-dire les câbles endommagés, les cabines détruites, et donc il faut qu'ils soient réhabilités. Voilà pourquoi nous avons pris une initiative plus ou moins louable, il faut le dire. Nous avons saisi le directeur général de la SNEL pour lui demander de trouver solution à ces problèmes. Et nous avons aussi dans notre correspondance, nous avons proposé certaines pistes de solutions, comme celle de utiliser les fonds FRIVAO. Vous vous souviendrez, monsieur le journaliste, qu'il y a plus de 2 ans ou 3 ans déjà, FRIVAO avait mis à la disposition de la SNEL 9 millions de dollars pour réhabiliter la centrale. Mais dans toutes les correspondances, récits, partant de mes questions écrites adressées au directeur de la SNEL, mais aussi au ministre de l'électricité, il s'avère qu'il y a au moins 7 millions de dollars qui seraient là. Voilà pourquoi je t'ai proposé qu'on puisse utiliser cet argent pour réhabiliter les réseaux, afin que la population, la grande partie, la majorité, soit servie.
Avec la réhabilitation de la centrale, on peut supposer que les 7 millions dont vous parlez ont certainement servi aux travaux qui ont été réalisés.
Je ne sais pas entrer trop dans les détails, mais les réponses fournies surtout par le directeur, il y a eu plus de, je pense, 1 700 000 justifiés, mais les autres, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas entrer dans les détails parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Mais en tout cas, il est vrai que les réponses nous données démontrent qu'il y a au moins 7 millions qui resteraient encore. Je me réserve de donner plus de confirmations. Je demande alors, parce que le ministre a confirmé, parce que le DG en a parlé, je demande qu'on puisse utiliser cet argent pour réhabiliter les réseaux.
Pour arriver à couvrir totalement les besoins de la ville en électricité, il existe un projet de construction d'une centrale secondaire à la Tchopo dans le cadre du partenariat public-privé. Vous pouvez aussi, en tant que député, pousser pour que le gouvernement fasse sa part en vue de l'aboutissement rapide de ce projet.
Nous sommes d'accord depuis très longtemps, pas seulement moi comme député Théovel Lotika, mais les caucus des députés de la Tchopo en tout cas, est derrière ce dossier depuis très longtemps. Nous avons déjà à l'époque saisi le ministre de la Justice, lui qui gérait les fonds Frivao, pour lui demander de satisfaire la demande de la SNEL, en lui donnant assez de moyens. Mais aussi, nous avons pris contact avec l'agence France Développement, je pense que c'est ça. Elle est aussi derrière les dossiers. Et donc, le partenariat public-privé est à privilégier.
À propos de la destruction des cabines dans plusieurs quartiers de la ville, que pouvez-vous dire à la population?
Nous appelons à la conscience de la population de laisser cette pratique qui aujourd'hui nous rattrape. On a détruit les cabines, on a volé les câbles aujourd'hui, et maintenant que le courant est là, ça nous rattrape aujourd'hui, nous sommes perdants. Donc c'est vraiment des pratiques à décourager. Nous allons continuer à sensibiliser, à alerter la population pour que ces antivaleurs soient éradiqués.
Tovel Lotika, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, coordination et supervision Alain Rung, présentation grâce à Mzati Masanzi. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la fréquence de la paix.